France Inter.
France Inter, il est 19h. C'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonsoir Éric.
Bonsoir Thomas et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'Arc de Triomphe à Paris, version sportive. Les joueurs du PSG n'ont pas raté leur rendez-vous cet après-midi avec leurs supporters massés sur les Champs-Élysées. Les héros perchés sur un bus à Impérial pour brandir la coupe aux grandes oreilles. Les champions sont en ce moment au Palais de l'Élysée où le président Macron s'apprête à leur rendre hommage. Nous y serons. Quant au bilan sécuritaire de la soirée, il a donné lieu à une passe d'armes entre le RN et les Insoumis d'un côté, le ministre de l'Intérieur de l'autre, accusé d'avoir organisé un fiasco sécuritaire. Vous entendrez la réponse de Bruno Retailleau. À la une également ce soir, le dossier ukrainien. Les combats se sont intensifiés de part et d'autre aujourd'hui, à la veille d'une nouvelle réunion à Istanbul pour envisager un cessez-le-feu. Et puis nous serons en direct de Chicago, là où se tient le congrès annuel des oncologues. Où en est la lutte contre le cancer? Eh bien, nous poserons la question tout à l'heure à l'invité de ce journal, le professeur français Jean-Yves Blé. Le temps, attention à ces risques d'orages depuis 16 heures dans 10 départements du centre-est. Et donc des orages demain encore pour démarrer la semaine, Céline Dacosta.
Oui, et toujours sur un axe sud-ouest, flanc est, avec des débordements possibles sur le Languedoc-Roussillon.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Les joueurs du PSG, toujours sur un nuage, même à leur descente d'avion en provenance de Munich. Le temps de poser pour une photo sur le tarmac avec une réplique de la coupe aux grandes oreilles. Ils ont aussitôt embarqué dans deux bus pour fendre l'autoroute A1 direction les Champs-Élysées. On se dirige d'abord vers le palais de l'Élysée. Où vous êtes, Jérôme Val? Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de la salle des fêtes, la bien nommée fête, salle des fêtes de l'Élysée. Le président Macron s'apprête à leur dire quelques mots?
Ça vient de démarrer, ce discours solennel sous les dorures et les lustres de la salle des fêtes de l'Élysée. Emmanuel Macron qui est arrivé avec l'ensemble de l'équipe de ce Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de tapis rouge tout à l'heure pour les joueurs parisiens pour les accueillir. Privilège réservé, nous précise l'Élysée, seulement aux équipes de France. Ils sont arrivés à pied dans la cour de l'Élysée à 18h30 précise. Le capitaine Marquinhos et le président du club Nasser El Khelaifi en tête, la coupe à la main, la coupe qui est désormais posée juste à côté du président de la République qui s'exprime donc pour remercier les... On m'a dit de baisser un petit peu de ton au moment où le président justement est en train de s'exprimer pour les féliciter évidemment devant, on va dire, 200 invités des anciens joueurs du Paris Saint-Germain, l'Argentin Javier Pastore ou Ludovic Gioli, mais aussi des sportifs qui sont venus, Richard Gasquet, Lombeller, Thierry Omeyer ou le judokate Roman Dico. Des élus aussi ont été conviés, on a vu Valérie Pécresse, il y a Rachida Dati, la ministre qui est là aussi, une quinzaine d'enfants de la fondation du PSG, le président Emmanuel Macron qui est donc en train de les féliciter à côté de cette Ligue des Champions qui est luisante sous les ors de la République.
Le discret Jérôme Val qui doit baisser le ton pour laisser la parole au chef de l'État qui s'exprime en ce moment devant les joueurs dans la salle des fêtes de l'Élysée. On va retourner dans les rues de Paris. Xavier Ponroy, vous êtes sur la moto France Inter. Bonsoir.
Bonsoir.
Toute l'après-midi, vous avez suivi le bus des héros de Roissy Charles de Gaulle jusqu'aux Champs-Élysées, les fumigènes rouges et bleus le long du parcours.
Exactement, journée après-midi de folie, dès le début de l'après-midi, des centaines de supporters s'étaient réunis à Roissy, et puis une fois que les deux cars emmenant les joueurs et le staff ont quitté les lieux, c'est un cortège impressionnant qui s'est mis en place sur l'autoroute A1 direction Paris. Sur des centaines de mètres, des scooters, des motos, à ne plus pouvoir les compter. Un bruit assourdissant, des fumigènes dans tous les sens, des klaxons évidemment. Et puis à chaque pont traversé sur l'autoroute A1, une masse de gens qui étaient là pour saluer les deux bus du Paris Saint-Germain et saluer aussi le cortège qui est devenu une sorte d'attraction à lui seul, puisque une fois que ce cortège est entré dans les rues de la capitale, les gens sur les trottoirs s'arrêtaient pour prendre en photo, pour saluer tous ces centaines de personnes sur leurs deux roues, une ambiance folle, beaucoup de bruit avant d'arriver donc jusqu'aux Champs-Élysées où là le bus à Impérial a défilé et c'était l'apothéose.
Et les joueurs sont attendus en début de soirée au Parc des Princes pour un concert spectacle pyrotechnique. Les supporters sont en train de quitter les Champs-Élysées pour ce chaudron.
pour ce chaudron.
Exactement, le transfert, puisque c'est un mot qui parle de football aussi, est en train de se faire. Pour l'instant, tout est encore très calme aux abords du Parc des Princes où nous nous trouvons, sur la bien nommée Place de l'Europe. Quelques centaines de supporters sont en train d'arriver. Le show démarrera avec de la musique, donc vers 20h30. Et puis, l'apothéose complète de cette soirée, ce sera l'arrivée des joueurs et la présentation du trophée dans le stade, dans le Parc des Princes. C'est attendu aux alentours de 21h30. Soirée qui est réservée uniquement aux abonnés du Paris Saint-Germain.
Et ça va chanter, ça va danser et sûrement s'égosiller encore une fois. Merci Xavier Ponroy sur la moto France Inter avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Concernant maintenant le volet sécuritaire des célébrations de la nuit dernière, une trentaine de gendarmes et de policiers ont été blessés, parfois grièvement. C'est ce qu'a dit cet après-midi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. 563 personnes ont été interpellées dans toute la France, dont plus de 300 gardes à vue. Et pas de lien avéré en revanche entre la mort d'un adolescent poignardé à Dax et les célébrations sportives d'hier soir. Ce bilan, il a donné lieu à une passe d'armes politique cet après-midi. D'un côté, le Rassemblement National et la France Insoumise qui dénoncent un fiasco sécuritaire. Ils demandent d'ailleurs au ministre de l'Intérieur de rendre des comptes. De l'autre, Bruno Retailleau qui a justifié cet après-midi son dispositif.
Je suis en colère aujourd'hui, comme beaucoup de Français, qui ne s'habitue pas plus que je ne m'habitue, à ce déchaînement de violence. On ne peut plus avoir de grandes fêtes sportives sans qu'il y ait une mobilisation massive de forces de sécurité intérieure. Insupportable quand des parents sont pris de panique parce que leur enfant est parti pour fêter une grande victoire sportive. Ça, c'est insupportable. Ceux qui, hier soir, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. La barbarie, c'est quand tout devient prétexte à la violence. La réponse ne peut pas être uniquement policière, sécuritaire. Ce serait se tromper que de le penser, puisqu'on ne mettra jamais un cordon de CRS devant chaque vitrine de commerce. Et ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'une défaillance de l'aspect sécuritaire, de la réponse sécuritaire, se trompent, comme le Rassemblement National, comme ils trompent, je pense, les Français.
Bruno Retailleau en conférence de presse cet après-midi à son ministère de la Place Beauvau et à l'instant les mots d'Emmanuel Macron, rien ne peut justifier les violences commises en marge de la victoire du club parisien, vient de dire le chef de l'État qui reçoit en ce moment en la salle des fêtes de l'Élysée les champions européens. La célébration des joueurs du PSG va se terminer dans la soirée, sûrement tard, au Parc des Princes, avec donc ce concert spectacle pyrotechnique.
France Inter. Éric Delvaux.
À la veille de nouveaux pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, les combats se sont intensifiés ces dernières heures de part et d'autre. Kiev annonce aujourd'hui une opération d'ampleur contre l'aviation militaire russe et parfois même très loin de son front, du front ukrainien. Agathe Mahué, c'est même la première attaque que Kiev mène sur le sol russe aussi loin de sa ligne de front.
Avec une base aérienne de Sibérie orientale, notamment frappée par l'Ukraine, à 4300 km de ses frontières. L'aérodrome de Belaya, dans la région d'Irkoutsk, on est là au nord de la Mongolie. Une autre base touchée se situe en Arctique russe, la région de Mourmansk, près du nord de la Finlande. Les services de sécurité ukrainiens parlent d'une opération spéciale préparée de longue date, visant au total 4 aérodromes militaires à travers la Russie. Moscou, qui le confirme ce soir, plusieurs de ces avions militaires ont pris feu après ces attaques de drones. Une quarantaine de bombardiers sont endommagés, affirme de son côté une source au sein du SBU, les services secrets ukrainiens, des appareils avec lesquels l'armée russe frappe régulièrement les villes d'Ukraine. Et cette opération d'ampleur a lieu, en effet, à la veille de nouveaux pourparlers à Istanbul, qui ne laisse que peu d'espoir, puisque Moscou continue de refuser le cessez-le-feu réclamé par Kiev et les Occidentaux.
Et quant à ce nouveau cycle de négociations qui doit reprendre donc demain à Istanbul, plus de 3 ans après le début de l'invasion russe, ni Vladimir Poutine, ni Volodymyr Zelensky n'y assisteront. C'était Agathe Mahué, envoyée spéciale de France Inter en Ukraine. La Grande-Bretagne a connu ce week-end un record de flux migratoires. Hier, en une seule journée, plus de 1194 migrants sont arrivés au Royaume-Uni en traversant la Manche sur de petites embarcations, de quoi accentuer encore un peu plus la pression sur le gouvernement de Keir Starmer pour endiguer le phénomène. Correspondance à Londres de Sidonie Gaucher.
C'est la première fois qu'ils arrivent en si grand nombre sur une même journée, entassés sur une dizaine de petites embarcations. En tout, près de 15 000 personnes ont franchi la Manche cette année, malgré les efforts conjoints de Paris et Londres. Ce nouveau pic ravive les tensions. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, déclare à la BBC que les images de ce week-end sont choquantes. Des policiers français qui assistent au départ des migrants sans intervenir. Alors, ils pointent du doigt. Il faut convaincre les Français d'intervenir dans les eaux peu profondes. Ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Car conformément au droit de la mer français, les autorités n'interviennent que sur le rivage. Après une baisse en 2023, les traversées illégales ont connu un net rebond l'an dernier avec l'arrivée de 36 800 personnes. Et la tendance pour cette année laisse augurer un nouveau record.
Sidonie Gaucher en ligne de Londres. En France, à 4 jours du congrès du Parti Socialiste qui doit désigner son nouveau premier secrétaire, celui qui est arrivé en 3e position, c'est-à-dire Boris Vallaud, annonce dans Le Monde qu'il votera personnellement pour le sortant Olivier Faure et non pas pour le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Avantage donc sur le papier à Olivier Faure, le sortant, et sa ligne favorable à un rapprochement du PS avec les Insoumis. Attention aux resquilleurs dans les transports d'Île-de-France. À partir d'aujourd'hui, 1er juin, la RATP augmente le montant des amendes. 20 euros de plus en cas de fraude, ça veut dire 70 euros et non plus 50. Concernant les bus et tramways, la non-validation d'un abonnement passera à 15 euros contre 5 euros actuellement. Une sévérité accrue donc que justifie le directeur de communication de la RATP, Jimmy Brun, au micro de Maxime Deps.
La fraude sur l'ensemble de l'Île-de-France, c'est une perte nette chaque année de l'ordre de 700 millions d'euros. Ces 700 millions d'euros de pertes, c'est de l'argent qui n'est pas investi pour moderniser les transports en commun, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé pour nettoyer, pour améliorer la propreté des transports en commun, et donc il faut lutter contre la fraude. Tout cela est très logique, hein. Aujourd'hui, avec un ticket à 2,50 €, c'est simple, une amende est rentabilisée au bout de 20 trajets. Voilà. Et donc, en augmentant le niveau de l'amende, eh bien, on augmente le nombre de trajets à effectuer pour rentabiliser une amende. Et donc, on augmente les chances que la personne qui ferait ce calcul se fasse contrôler et donc prenne l'amende plutôt que de la rentabiliser en fraudant.
Le directeur de communication de la RATP avec donc Maxime Deps. 40 000 cancérologues du monde entier et des représentants des laboratoires pharmaceutiques sont réunis, comme chaque année, au congrès, le congrès de Chicago. C'est le congrès annuel, un immense congrès qui partage les dernières recherches pour vaincre le cancer. Parmi les 40 000 congressistes, il y a un millier de Français et parmi eux, notre invité en direct de Chicago. Bonsoir, professeur Jean-Yves Blay.
Bonsoir.
Je vous dis bonsoir, ou plutôt bonjour, hein. Il est 14h15 à Chicago. Vous êtes oncologue, chercheur français de renom, à la tête du centre Léon Bérard de Lyon. En matière de recherche contre le cancer, les États-Unis restent la référence, mais les Français sont aussi dans le haut du tableau. Leurs publications sont toujours très attendues.
Oui, tout à fait. Le congrès de l'ASCO est l'occasion de rassembler les recherches de l'ensemble de la planète. Hein. C'est un congrès international et effectivement, la position des Français est depuis de nombreuses années assez forte. On fait des recherches qui sont visibles et qui sont transformantes, donc on peut réellement être fier de notre production.
Les progrès ont été considérables ces dernières années dans certains cancers. Quelles maladies cancéreuses qui étaient très sévères à l'époque sont aujourd'hui quasiment contrôlées ?
Alors, quasiment contrôlé, on a toujours une fraction des patients pour lesquels les traitements nouveaux qui ont été développés sont malheureusement inefficaces, et c'est d'ailleurs le sujet des recherches actuelles, mais beaucoup de cancers qui étaient traditionnellement difficiles à traiter, tels que des mélanomes ou certains cancers du poumon, sont désormais, grâce à l'immunothérapie, grâce aux thérapeutiques ciblées, et grâce à des stratégies thérapeutiques encore plus innovantes, sont désormais curables, y compris dans des situations où elles étaient réputées incurables il y a encore quelques années.
Mais car on sait aujourd'hui identifier des cellules tueuses, capables donc de tuer des cellules malades.
Oui, c'est exactement ça. Les principes de l'immunothérapie du cancer, c'est de réactiver quelque chose que les cellules cancéreuses ont désactivé dans notre système immunitaire. Le système immunitaire a été rendu incapable de reconnaître les cellules cancéreuses et nos stratégies d'immunothérapie permettent de réactiver ces cellules immunitaires pour lutter contre les cellules cancéreuses. Et on a différentes manières de le faire, avec des médicaments, des anticorps par exemple, et également des cellules du patient que l'on peut manipuler pour leur permettre de reconnaître les cellules cancéreuses.
Et des progrès également concernant la détection des cancers.
Oui, tout à fait. On a désormais en main, et on le voit dans plusieurs présentations, des outils qui nous permettent de détecter ce que l'on appelle l'ADN de la cellule tumorale qui circule dans le sang. C'est une prise de sang qui nous permet de détecter les anomalies moléculaires de l'ADN des cellules tumorales et ainsi d'adapter plus tôt le traitement, de changer éventuellement le traitement, de détecter une éventuelle rechute beaucoup plus tôt avec des perspectives d'application qui sont très importantes pour le suivi, qui vont certainement compléter les outils d'imagerie, des scanners et IRM que l'on fait pour surveiller les patients.
Vous êtes en direct de Chicago pour ce congrès des oncologues. À propos de la politique anti-science de Donald Trump, est-ce que les coupes budgétaires du gouvernement américain commencent déjà à se faire sentir, y compris en France ?
Alors lorsqu'on discute avec nos collègues américains, il y a un certain nombre de financements qui ont été effectivement interrompus, mais je dirais que aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Congrès montre des résultats qui ont été obtenus sur des programmes qui ont démarré il y a 1, 2 ou 3 ans, donc l'impact n'est pas encore visible. Maintenant, c'est certain que la réduction des financements académiques qui sont procurés par les États-Unis pour leurs chercheurs, mais également pour les programmes internationaux, vont certainement avoir un impact. C'est encore un peu tôt, je pense, pour le mesurer.
Eh bien, merci de ce témoignage. Je rappelle que le cancer en France, c'est 433 000 nouveaux cas par an. Merci beaucoup, professeur Jean-Yves Blais, à la tête du centre Léon Bérard de Lyon, en direct donc de ce congrès d'oncologie de Chicago. 3 anciens cadres d'Ubisoft seront jugés à partir de demain pour harcèlement moral et sexuel. C'est une vague de témoignages accablants qui était apparue sur les réseaux sociaux et on le doit aussi à des enquêtes publiées dans la presse dès 2020. Et depuis, eh bien, le numéro 2 du géant français des jeux vidéo a dû démissionner. D'autres cadres ont été licenciés pour faute grave et ils devront donc s'expliquer à partir de demain devant le tribunal correctionnel de Bobigny, Sarah Guibaudot.
Les conclusions de l'enquête interne d'Ubisoft décrivent un groupe d'hommes immatures se livrant à tout type d'abus, des jeux vulgaires, des humiliations et des agressions sexuelles. Un groupe soudé sous l'influence de l'ancien vice-président de l'éditorial qui mettait des films porno au bureau, laissait tomber ses stylos pour que les collaboratrices les ramassent ou obligeait une salariée à faire le poirier en jupe. Des témoignages accablent aussi l'ancien numéro 2 du groupe, qui pouvait traiter une salariée, je cite, « de mal baiser qui entrave sa créativité ». Ces hommes de pouvoir avaient aussi l'habitude de prendre leurs collaboratrices pour des assistantes personnelles, chargées de faire leurs courses ou de gérer leurs tâches familiales. Des cadres perçus comme intouchables. Quand on se plaignait à la DRH, on comprenait qu'on ne pouvait rien faire, il fallait fermer les yeux ou serrer les dents, relate un salarié. L'avocate de plusieurs parties civiles regrette d'ailleurs que le PDG, la directrice des ressources humaines et l'entreprise comme personne morale ne soient pas sur le banc des prévenus. Elle a prévu de les convoquer elle-même.
Sarah Guibaud, service police-justice de France Inter. Ce sera dans 8 jours, le 9 juin précisément, à Nice, un grand sommet des Nations Unies sur les océans. Et bien dès demain, toujours à Nice, 2000 scientifiques internationaux vont se réunir en colloque autour de la pollution plastique, la surpêche, la montée des eaux et l'érosion des littoraux. Les océans recouvrent 70% de la planète et sous les eaux, eh bien, cela reste une immensité largement méconnue, Sandy Dauphin.
À ce jour, 26% des fonds marins ont été cartographiés en haute résolution contre 6% en 2017 grâce aux données satellites, mais pas que, explique Julien Barbière, chef de la section de la politique marine de l'UNESCO.
Pour ce qui est des zones profondes, et ce qui est quand même la majorité des océans, c'est là qu'on a principalement un manque de données. On a aussi besoin d'avoir des moyens de mesure in situ, principalement des bateaux de recherche, mais aussi des nouvelles technologies et de nouveaux véhicules autonomes qui peuvent collecter certaines de ces données.
Et il faut compléter cette cartographie des fonds océaniques pour bien comprendre les grands changements en cours.
Pour mieux comprendre les impacts du changement climatique, pour modéliser les courants, cartographier, c'est aussi mieux comprendre cette biodiversité que nous connaissons à peine. Nous pensons qu'il y a peut-être entre 700 000 et 900 000 espèces marines qui n'ont pas encore été découvertes. Cette cartographie, elle est aussi essentielle pour mieux gérer les catastrophes. Par exemple, dans le cadre des tsunamis, pour bien modéliser les impacts potentiels des vagues sur la zone côtière.
L'objectif de l'UNESCO est d'arriver à 100% des fonds marins cartographiés d'ici 2030. L'un des grands enjeux est de convaincre les pays de partager leurs bases de données qu'ils protègent parfois jalousement pour des raisons de souveraineté et de sécurité.
Sandy Dauphin. Le tennis à Roland-Garros, la triple tenante du titre, la polonaise Iga Swiatek s'est qualifiée dans la douleur pour les quarts de finale. La polonaise, cinquième joueuse mondiale, a finalement trouvé les ressources nécessaires pour renverser Elena Rybakina, onzième au classement ATP. C'est la fin d'un long week-end de l'ascension avec son lot de bouchons sur les grands axes. Plus de 1140 km d'embouteillage ont été enregistrés cet après-midi. Un chiffre d'ailleurs très au-delà de l'exceptionnel, explique Bison Futé. Bouchons notamment sur la 10, la 7, la 9 et la 13. Un mot encore sur le Livre Inter, présidé cette année par Marie-Hélène Lafont. Le nom du ou de la lauréate sera dévoilé demain dans le journal de 8h. Elle ou il sera ensuite l'invité de la matinale à 8h20 avec Eva Bétan, toujours aux commandes, et les membres du jury. Avant le point météo, je vous rappelle enfin cette alerte. Alerte au risque d'orage depuis 16h, dans la soirée également, dans 10 départements du centre-est. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le ciel sera bien couvert demain sur une grande partie du pays.
Oui, surtout sur la partie sud hein, du bassin Aquitain-Pyrénées jusqu'au Jura, Alsace et Bourgogne. On aura un temps couvert et pluvieux, voire déjà orageux dès le matin sur une large moitié nord et près de la Méditerranée. En revanche, le ciel sera plus calme, variable, avec une alternance de nuages et d'éclaircies et avec des températures qui iront de 10 à 15 degrés au nord de la Loire, 16 à 20 degrés pour le sud.
Et le ciel sera toujours orageux l'après-midi. Hein.
Oui, et toujours sur le même axe, hein, du sud-ouest au flanc est, avec des débordements possibles sur le Languedoc-Roussillon, des orages parfois intenses, notamment sur le centre-est. Et puis en soirée, dans l'intérieur de l'Occitanie, là aussi on aura des cumuls de pluie importants. Pour les autres, ce sera toujours calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies, avec des températures qui vont encore baisser un petit peu. La moyenne ira de 20 à 25 degrés en général, 25 à 30 encore près de la Méditerranée.
Les prévisions de Céline Dacosta.